Chers amis, mesdames, messieurs, je vais encore vous demander quelques instants de patience avant la bénédiction finale qui viendra, rassurez-vous. Je voudrais, si vous le permettez, avant de conclure cette célébration et de nous retrouver, pour ceux qui le pourront, pour un temps convivial à son issue, vous dire quelques mots encore. Je voudrais avant toute chose remercier chacun et chacune d'entre vous pour sa présence ici dans cette cathédrale ou par le biais de RCF 37. Merci en particulier à toutes ceux et à toutes celles qui, depuis des semaines et des jours, ont préparé cette installation, en ont assuré l'accompagnement. Je voudrais remercier en premier lieu, vous le comprendrez, l'Alsace et mon diocèse d'origine de Strasbourg. Cela signifie un remerciement tout particulier à ma famille, à ma mère qui, normalement, si je lui ai tout bien réglé sur son iPhone, nous entend par les ondes. Ah oui, tout de même. Même si je suis né à Perpignan d'une famille du côté de mon père d'origine catalane, mon père architecte des bâtiments de France, décédé aujourd'hui, aurait aimé cette magnifique cathédrale. J'ai grandi en Alsace, lieu d'origine de la famille de ma mère, artiste peintre. Cet enracinement prépare, me semble-t-il, à la rencontre de l'autre et de la différence. Je suis né dans un foyer mixte, comme souvent en Alsace, d'un père protestant réformé et d'une mère catholique. J'ai grandi entre Rhin et Vosges, au cœur de la culture rhénane, qui doit à la France et à l'influence germanique. Ma grand-mère maternelle a changé 4 fois de nationalité dans sa vie. J'ai aussi grandi avec de nombreux amis juifs à Mulhouse, dont certains auraient souhaité être présents aujourd'hui, et j'ai été très ému d'avoir un appel téléphonique du grand rabbin de France juste avant cette célébration, M. Raïm Korshia, qui me laissait un message d'amitié pour avoir collaboré quelques années avec lui à l'unité des chrétiens et leurs relations avec le judaïsme. Merci en tout cas à mes frères, amis alsaciens, prêtres et laïcs, merci à l'Église d'Alsace qui m'a formé et donné l'occasion d'exercer mon ministère en me faisant confiance. Je voudrais remercier bien entendu les frères et sœurs et amis jurassiens qui sont présents cet après-midi, les prêtres avec lesquels j'ai eu la joie de porter la mission de l'Église de Saint-Claude et qui m'ont beaucoup apporté par leur belle fidélité et leur témoignage évangélique, les diacres et leurs épouses ici présents que j'ai pour certains d'entre eux ordonnés, les frères et sœurs laïcs dont beaucoup ont été des collaborateurs durant mes 8 années à Saint-Claude. Je pense aussi aux communautés monastiques du diocèse que je sais en communion avec nous ce jour. Chers amis, j'ai vécu avec vous des années profondes et essentielles pour moi. Comme j'ai pu le dire déjà, la modestie et la solidarité des Jurassiens s'accordent bien avec l'Évangile. Je vous souhaite de poursuivre la mission avec joie et ferveur. Je prie aussi pour que le Seigneur vous envoie, Monseigneur, un pasteur selon le cœur de Dieu. Merci à l'Église de Saint-Claude pour l'expérience spirituelle forte que nous avons partagée et la communion vécue au service de la mission, cette Église qui est aujourd'hui une part de moi-même. Je voudrais remercier l'Église de Tours pour l'accueil qu'elle m'a réservé déjà au mois de novembre, lors d'un bref passage, ainsi que depuis quelques jours. Je lui dis toute ma disponibilité, particulièrement aux frères prêtres qui seront mes premiers collaborateurs. Je vous assure, chers amis prêtres, de ma proximité fraternelle et de mon attention paternelle, alors que le ministère presbytéral se vit aujourd'hui dans des conditions complexes et parfois douloureuses. Je vous dis toute mon affection et vous remercie pour le don de vous-même, votre générosité à vivre la mission. Surtout, vivons cette mission toujours plus unie à Jésus, qui en est la seule et l'unique source. Je compte aussi, bien entendu, sur les frères diacres, les religieux et religieuses, sur tous les fidèles venus si nombreux cet après-midi, chacun et chacune d'entre vous, chers amis. Je compte sur vous tous pour découvrir ce beau département et la vie ecclésiale avec vous pour servir au mieux. Nous avons des défis importants à relever. Je sais que je viens vivre l'Évangile avec vous dans une terre marquée par la figure forte et vénérable de Saint Martin. Je sais aussi combien mes prédécesseurs directs ont œuvré de belles manières. nous aurons à faire vivre notre Église, notre famille diocésaine ensemble. Nous aurons à le faire dans un moment de la vie de l'Église marqué par des souffrances et des interrogations. La manière la plus ajustée de poursuivre la route est justement de suivre l'invitation lancée par le pape François dans la joie de l'Évangile, qui est pour ainsi dire, pour les temps à venir encore, notre feuille de route. Cet appel qui est celui de la conversion missionnaire de notre diocèse, de notre conversion personnelle, afin de devenir toujours plus les disciples missionnaires dont le monde a besoin, et de donner le goût à d'autres, par notre vie authentiquement évangélique, de redevenir chrétien pour ceux qui se sont éloignés, ou de vivre cette expérience pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est par les fruits de l'Esprit, par la sainteté, qui est le plus beau visage de l'Église, comme le souligne le pape François, que nous avons à répondre aux défis de ce temps. Saint Martin nous ouvre ici la voie de manière exemplaire. Je voudrais remercier mes frères archevêques et évêques présents cet après-midi. Merci aux confrères de la province de l'Est que je quitte, à Monseigneur Bouilleret, archevêque de Besançon, à Monseigneur Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard. Merci aussi aux évêques de la province de Tours qui sont présents cet après-midi, qui m'accueillent et avec lesquels je vais maintenant avoir la joie de collaborer et de travailler. Chers confrères, je m'en réjouis vraiment. Enfin, je voudrais m'adresser à chacun et chacune d'entre vous, quelles que soient vos convictions. Je voudrais dire combien, envoyé dans cette province, ce diocèse et cette ville de Tours, je souhaite vous dire mon désir de dialogue et de collaboration avec tous et toutes, au-delà des limites de notre Église catholique. Bien évidemment, dans le dialogue œcuménique, je salue les représentants des communautés présentes, et dans le dialogue interreligieux. Et je salue là aussi les responsables de communautés présents. Mais je souhaite ce dialogue plus large encore. Je n'oublie pas, en disant cela, le régime de laïcité qui est le nôtre, bien entendu. Mais je sais aussi de mon expérience concordataire comme évêque auxiliaire en Alsace, et surtout pendant 8 ans dans le Jura, que la distinction n'empêche pas l'échange, le dialogue et la courtoisie. Je sais que ce régime, celui de la laïcité, concerne l'État et non pas la société. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président de la République demandait à l'Église catholique le 9 avril 2018 à Paris, au Bernardin, je cite, « sa sagesse, son engagement, sa liberté ». Pour ma part, je l'ai toujours partagé avec les élus et les autorités de l'État. J'ai toujours partagé le fait que, par exemple, lorsque des catéchistes aident des enfants à grandir et à se construire, lorsque des chrétiens trouvent de l'énergie dans leur foi pour être plus solidaires, attentifs aux personnes fragiles, aux malades, aux prisonniers, aux migrants, quand des chrétiens trouvent force et fidélité pour s'engager dans la vie associative, politique ou sous d'autres formes encore, il y a là une contribution, non seulement à la vie de l'Église, mais comme d'autres réalités, une contribution du bien de la société tout entière. Je m'autorise ce propos bien modestement parce que nous sommes dans une période particulière de l'histoire. Il y a plus de 30 ans, tombait le mur de Berlin. L'historien Francis Fukuyama parlait alors de la fin de l'histoire. Le monde allait enfin être un espace d'échange consumériste sans limite, Netflix et Big Mac pour tout le monde. Et puis, depuis, rien ne s'est passé comme prévu. L'histoire est revenue sur la scène et de manière étonnante, nous nous trouvons aujourd'hui face à des questions importantes, voire vitales, que personne n'imaginait il y a 30 ans et pour lesquelles il me semble que nous aurons justement besoin de l'engagement de tous. J'aimerais juste en évoquer en quelques mots deux. La première question est certainement celle qui concerne l'unité de notre société. Le président Jacques Chirac, vous le savez, avait convié dans le débat la question de la fracture sociale. Le géographe Christophe Guillouis, analysant depuis près de 10 ans la transformation des territoires, a abordé plus largement la question des fractures françaises, bien en amont de la crise des Gilets jaunes. Récemment, Jérôme Fourquet parlait de l'archipélisation de la France et vient nous rappeler que l'unité d'un pays ne va pas de soi. Régis Debray a pu écrire à ce propos dans un petit livre stimulant que je vous conseille, qui s'appelle l'erreur de calcul, que pour faire, je le cite, pour faire d'un tas un tout, il faut quelque chose au-dessus du tas. Vous suivez ? Pour faire d'un tas de gens, de personnes, pour en faire une société, une nation, il faut quelque chose au-dessus du tas. Comment continuer à être une nation ? Et surtout, comment en assurer l'unité, la cohésion à l'avenir ? Jean-François Colosimo le disait lui aussi dans un grand quotidien du soir récemment, nous assistons à une, je le cite, « atomisation sans précédent de l'humanité » qui menace désormais l'exercice démocratique des libertés. La seconde question est celle de la transformation à venir de nos façons de vivre en raison du réchauffement climatique. Personne ne s'en plaindra dans un premier temps, peut-être dans cette cathédrale. La conférence des évêques de France a considéré la question tellement essentielle qu'elle en a fait son sujet de travail pour les temps à venir, innovant aussi quant à la manière de travailler. Il est difficile pour l'instant de mesurer les changements concrets que la conversion écologique qui vient va nécessiter pour chacun d'entre nous. Nous sommes face à un défi majeur qui est tout simplement la question de l'avenir de notre civilisation et de la capacité des générations à venir à vivre dans certains espaces du globe. Le philosophe Pierre-Henri Castel le souligne dans un petit livre intitulé « Le mal qui vient ». Rien ne nous assure que l'homme aura le désir de se mobiliser pour ces changements à venir qui sont pourtant absolument nécessaires. Je pense particulièrement aux jeunes, si nombreux cet après-midi, présents dans cette cathédrale, qui sont soucieux face à cette question écologique, même si une étude récente montre qu'ils y sont sensibles, mais ont autant de mal que leurs aînés à changer réellement leur mode de vie. Comment vous aider, chers jeunes ? Comment nous aider dans les temps qui viennent ? Or, ces deux questions, la question de la société et la question de l'écologie, convergent. Le philosophe Patrick Vivray disait hier, rassurez-vous, c'est la dernière mention, disait hier dans le journal La Croix que nous sommes finalement face à un double dérèglement climatique, le réchauffement écologique s'accompagne d'une glaciation relationnelle. La température monte dans l'écosystème, mais elle se refroidit entre les hommes et dans la société. J'aurai, chers diocésains, l'occasion de vous inviter à réfléchir à ces questions dans une conférence de carême que je vous proposerai au mois de mars prochain. Car enfin, pour aborder ces questions vitales pour notre société, voire pour notre civilisation, qui sont de véritables défis, il faudra bien entendu de la compétence, de l'expertise, de la technicité, mais il faudra certainement aussi, et je le dis ici bien modestement, croyez-le, mobiliser des sagesses, des énergies spirituelles, voire des énergies religieuses, tant les enjeux sont énormes et les inerties réelles. Nous aurons besoin de tous et de tout le monde pour que le monde demeure vivable pour tous et par tous. Avant la bénédiction finale, nous y arrivons, je voudrais annoncer que je reconduis dans leurs fonctions et leurs charges le vicaire général, le père Christophe Rimbaud, que je remercie de son accueil et de son accompagnement, et les membres du conseil épiscopal précédent. Et pour que nous puissions être justement tous ensemble réunis pour un temps convivial, le diocèse vous invite à un verre de l'amitié et à un signe de l'épiphanie qui ne sera pas dur à trouver à la maison diocésaine du Carmel, rue des Ursulines. Le flot de ceux qui savent devrait permettre de conduire ceux qui ne savent pas.